Radio Barque, deuxième partie de cette 11e et, je le signale au passage, dernière de 2016. Le sommaire prévoyait, et prévoit toujours d'ailleurs, Michel, que tu nous parles de la visite de Monsieur Valls à Narbonne et dans l'Aude.
Oui, au cas où nos auditeurs ne l'auraient pas remarqué, Manuel Valls est en campagne pour les primaires du Parti Socialiste. Je dis Parti Socialiste parce que
c'est censé être la gauche.
J'entends et je lis tous les jours les primaires de la gauche. Bon, je regrette, mais c'est vraiment la petite gauche. En réalité, c'est les primaires du Parti Socialiste, même si Mme Pinel, au dernier moment, a retiré sa candidature en solo pour venir rejoindre la primaire en question. Bref.
Oui, ce qui te fait plaisir, puisque
oui,
c'est ce que tu avais annoncé.
J'avais titulé ce billet « La petite manip de Valls », avant que tout cela, effectivement, soit vérifié par cette décision de Mme Pinel. Bref, il était dans l'Aude.
Du coup, Valls, pour te remercier, est venu à Narbonne.
Exactement. Et puis, je revenais chez ma boulangère, longeant les barques direction la médiathèque. Et là, j'aperçus un attroupement devant le Macquart. Je fais une petite bulle pour le Macquart au passage. J'ai aperçu un petit attroupement dont je me suis rapproché. J'étais en compagnie d'Anthony, qui doit faire 2 mètres, j'en fais un 83. Et elle m'a dit, mais c'est Manuel Valls qui est là. Donc, je ne le voyais pas, donc il a fallu que je me hisse sur la pointe de mes pieds pour l'apercevoir, parce que je m'en suis rendu compte à ce moment-là, il n'est pas grand, en fait. Il est plutôt petit,
oui,
74.
Y en a plein d'autres comme ça. Il y a Sarkozy, il y a Hollande, enfin, c'est le format, pratiquement.
Ben oui, c'est le format. Il y avait à côté de lui Catherine Bossis, du coup, elle m'a paru très grande, parce qu'effectivement, elle était à peu près au même niveau. Et le constat que j'ai fait aussi, mais qui m'a fait un peu sourire, c'est que tous les responsables politiques au doigt du PS étaient petits. Il y avait Monsieur Barrault, qui est le vice-président du conseil départemental, qui est tout petit. Il y avait André Viola, qui est pas bien grand, en fait, c'est au moins qu'on puisse dire.
C'est ce qui t'a surpris plus. Quoi,
oui, en fait. Ça m'a surpris. Bon, passons. Quoi. Mais il y avait Marianne Fabre aussi, qui était là, et visiblement, à sa mine, elle n'était pas forcément dans un contexte, réjouissant. Quoi. En fait, elle portait pas sous son visage la joie d'être toute la joie qu'elle aurait dû, ou peut-être qu'elle aurait pu manifester à l'égard de France. Et on peut la comprendre quand même, parce que elle n'a pas eu à l'égard de son hôte, pendant notamment le débat sur la loi El Khomri, une opposition qui lui était favorable. Je parle à Manuel Valls, puisqu'elle a combattu, en disant qu'elle n'était pas d'accord, qu'elle était avec les frondeurs sans y être, puisque elle n'a pas signé la motion de censure que les frondeurs avaient déposée. Enfin bref, elle a une position très ambiguë, en tout cas anti-Valls, clairement, en fait, à cette occasion-là. Donc, visiblement, elle portait
mal à l'aise. Ça se comprend.
Et j'ai pu le vérifier, ce constat-là, quand j'ai appris que, poursuivant son périple dans l'Aude et allant à son métier à Villemoustoussou, près de Carcassonne, j'ai constaté que aucun des parlementaires du département de l'Aude n'était présent.
Oui, ça marquait mal.
Pas de sénateur, pas de député. Comme si, effectivement, ces parlementaires-là n'avaient pas envie d'être sur la photo, quoi, avec Manuel Valls.
Alors, explication de texte.
Cette fédération socialiste n'a jamais été rocardienne, autant que je sache.
Rappelons-le.
Elle a toujours été, vous savez qu'elle est passée, chaque fois qu'il y avait un leader qui était dans le courant d'opinion, plutôt en position favorable, elle s'est ralliée, à ce leader-là. Aux dernières nouvelles, elle était plutôt Montebourg, Payon-Amont, c'est-à-dire nouveau parti socialiste. Rick Andrieux, d'ailleurs, l'actuel député européen, vient de se déclarer en faveur de la candidature et donc soutient Vincent Payon. Jacques Bascou, je n'en sais rien. Lui qui, avec d'ailleurs Andrieux, était aussi
Lui, pour le moment, ne dit rien.
Pour le moment, il ne dit rien. Je ne sais pas d'ailleurs s'il va s'exprimer pendant cette campagne. Je le trouve très discret sur le sujet.
C'est peut-être sa nouvelle stratégie.
Mais mon sentiment est quand même que dans cette fédération de l'Aude, la tendance, la majorité est plutôt montebourgienne payonesque, Manuel Valls, même si j'ai appris en lisant la presse hier ou avant-hier, je ne m'en souviens plus très bien, que le président du conseil départemental, André Viola, faisait partie du petit comité de campagne de Manuel Valls, et donc il le soutenait.
Alors, oui, mais il prépare son avenir politique.
Exactement, il espère bien être député, et qu'un jour Manuel Valls soit président de la République, et probablement ministre, puisque son rêve à lui, André Viola, qu'il a souvent dit, et je peux en témoigner de la bouche d'un de ses collaborateurs très proches, qu'il désespérait d'être nommé par l'actuel gouvernement, secrétaire d'État au tourisme.
Voilà. Et au Parti socialiste au doigt, autre ambiance, celle-ci, elle se résume en une formule, Pérez et Perea.
Oui, alors voilà, Pérez, on peut le comprendre, qu'il n'était pas au meeting.
Lui est tombé en disgrâce, clairement.
Lui, il s'est fait carrément assassiner. En 2015, j'avais écrit un billet, c'était en pleine campagne des investitures pour les régionales. Hein. La commission des investitures de Carcassonne se réunit, puis crac, Jean-Claude Pérez, qui évidemment voulait être dans le peloton de tête des élus PS du département, pour tout simplement être à la région et se préparer en cas d'échec législatif, bon, un fauteuil à peu près confortable. Pam! Sur le mec, si je puis dire, il se fait déquiller par ses amis du PS au doigt.
Et ce fut le début de la fin.
Et j'écris un billet le lendemain disant, voilà, chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire, je disais dans ce billet, aux législatives prochaines, on ne verra plus M. Pérez parce que ses amis politiques n'ont pas fini de le tuer, si je puis dire. Hein,
ils ont bien. Voilà, c'était un sérieux assassinat, si je puis dire.
Et la thèse que je défendais à l'époque vient de se vérifier, puisqu'effectivement, investiture pour les prochaines législatives. Et là, surprise, il se retrouve avec deux candidats face à lui, dont le maire de... J'ai perdu le village.
Villeneuve, peu importe,
Mégenièse, et d'une dame, hein, visiblement envoyée par la fédération pour le torpiller, et qui effectivement, au premier tour, se retrouve avec 40% des voix, donc au second tour à haut risque, ouais. Avec la sortie
et il préfère sortir à la Hollande, d'une certaine façon.
Exactement, plutôt que de sortir de manière très humiliante par une défaite carabinée, il a préféré partir en tapant sur ses propres amis, fait de politique, hein, c'est scandaleux, etc. Cela dit, pour les propres amis, pour ses ex-amis plutôt, c'est vrai que dans les statuts du parti, quand il y a un deuxième tour, on ne peut pas dire je n'y vais pas. Ouais. Hein. La seule chose que l'on puisse demander, c'est au candidat en question de se désister. Mais bon, il n'avait pas l'intention de le faire. Donc, mort de Pérez, annoncé et puis effectivement réalisé.
Voilà. Et alors, M. Perea, pour terminer sur le sujet, avant que nous arrivions au mouvement
on change de séquence.
Ce qui fait une bonne transition, puisque M. Perea veut en être.
Exactement. Donc, on descend vers le littoral et puis dans notre circonscription de Narbonne. J'ai chroniqué à plusieurs reprises sur la position d'Alain Perea, très compliquée dans cette affaire-là. Alain Perea, vice-président socialiste du Grand Narbonne, maire de Villedaigne, qui, pour des raisons à la fois personnelles et politiques, supporte de plus en plus difficilement, maintenant ne la supporte plus, Marilène Fabre, l'actuelle députée socialiste de la circonscription, quand il était directeur général des services, en fonction de directeur général des services à la ville, qui était l'adjointe de Bascou en charge des affaires administratives et qui se comportait de fait comme un directeur général. Bon, bref, il ne peut plus la supporter. Et la semaine dernière, il a carrément fait une déclaration dans la presse en disant « Maintenant, c'est fini, hein, je romps les ponts, d'autant que elle n'a même pas daigné m'appeler, a-t-il écrit, le journaliste a-t-il rapporté, pour me proposer le poste de suppléant. »
Et donc, M. Perea a envie de rejoindre Macron.
On le sait, je regarde attentivement et avec grand intérêt Macron. D'ailleurs, il était au dernier meeting à Paris en compagnie de Granel. Et voilà, il se prépare dans ce sillage-là à avoir quelques responsabilités dans ce mouvement, lesquelles on n'en sait rien parce que c'est vrai que ce n'est pas parti comme les autres.
Ça va faire peut-être partie des questions partie.
Peut-être que David Granel et ses amis vont nous expliquer comment tout ça s'organise.
Un certain nombre de choses. Nous marquons une deuxième pause et nous nous retrouvons, comme je le disais en début d'émission, avec d'une part Marie-Hélène Régnier, d'autre part David Granel et Sébastien Pinet, tous trois pour le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. À tout de suite.